psaume 78, le psaume 78. Descendant, il put attraper une branche qui l'empêchait temporairement de poursuivre sa chute. Il jeta un regard vers le bas et il vit avec horreur qu'il se trouvait à plus de 500 mètres du sol. Et il savait que la branche qui le tiendrait pas longtemps et qu'il n'y avait aucun moyen de grimper sur le mur escarpé de la falaise pour s'en sortir. Alors Maurice commença à appeler à l'aide, espérant qu'un passant pourrait l'entendre et lui lancer une corde pour le sortir de sa fâcheuse situation. « À l'aide, y a-t-il quelqu'un à l'aide? » Il cria ainsi pendant des heures, mais personne ne l'entendit. Il était sur le point d'abandonner lorsqu'il entendit une voix. « Maurice, peux-tu m'entendre? »
« Oui, je peux vous entendre. Je suis ici et je peux te voir, Maurice. Est-ce que tu vas bien? Pas vraiment. Mais qui êtes-vous et où êtes-vous? »
« Je suis le Seigneur. Je suis partout. »«
Le Seigneur, vous voulez dire Dieu? »«
Oui, oui, c'est moi. »«
Dieu, je vous en supplie, aidez-moi. »« Je vous promets que si vous me sortez de ce mauvais pas, de ce mauvais drap, je vais arrêter de pécher. »« Je serai une bonne personne et je vous servirai tout le restant de ma vie. » »«
C'est facile de faire des promesses, Maurice. »« Écoute bien ce que je veux que tu fasses maintenant. »«
Écoute attentivement. »
« OK, Seigneur, OK. Lâche la branche. »«
Ouais! Oui, je t'ai dit de lâcher la branche. Fais-moi confiance, vas-y! »
Il y eut un long silence. Finalement, on a entendu Maurice crier de toutes ses forces.
« Y a-t-il quelqu'un d'autre qui pourrait m'aider? »
Frères et sœurs, cela nous rassemble beaucoup, n'est-ce pas? Nous disons que nous voulons servir le Seigneur, que nous savons ce qu'il veut. Et puis, lorsqu'il nous dit ce qu'il attend de nous, nous ne sommes pas trop d'accord pour faire ce qu'il nous demande de faire. C'était le problème des Israélites dans ce psaume, écrit par Asaph, et non pas par David. Ils avaient été appelés à quitter l'Égypte pour suivre le Seigneur par la foi, et pourtant, ils semblaient constamment douter de sa puissance, de ses promesses et de sa présence tout au long de leur pèlerinage. L'attitude de leur cœur se résumait dans ces deux mots. « Dieu pourrait-il? » Entre les versets 12 à 20, ce sont les versets que nous allons lire, 12 à 20. « Dieu pourrait-il? » Et je présume que c'est une question que probablement, si vous êtes chrétien et même non chrétien ce matin, une question que vous vous êtes probablement posée. « Dieu pourrait-il? » « Dieu pourrait-il me trouver un emploi? » Dieu pourrait-il me trouver une épouse? Dieu pourrait-il me trouver un mari? Dieu pourrait-il me libérer de tel ou tel péché? Dieu pourrait-il? On va lire les versets 12 à 20. Devant leur père, ils avaient fait des prodiges, on parle de Dieu ici. Au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan, il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille, il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit les rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Je trouve que c'est bien ça, hein? Demander, c'est prier, hein?
demander selon notre désir et non pas selon le désir de Dieu, c'est-à-dire demander selon notre volonté et non pas selon la volonté de Dieu. Et je pense qu'il y a toute une différence entre prier et dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, et de dire, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est ce que Jésus nous a laissé hein, dans le jardin de Gethsémané. Il n'a pas dit que ta volonté soit faite, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, et à ce moment-là, je ne serai pas déçu. C'est toute la différence, hein? Selon ta volonté, si c'est le contraire de ce que je voulais, je vais peut-être être frustré. Mais si je termine ma prière en disant, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, c'est quelle différence quoi, dans ces propos. Hein? Et c'est un modèle de prière que Jésus nous a laissé dans le jardin de Gethsémané. Ils parlèrent contre Dieu, verset 19. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourrait-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Dieu pourrait-il ce matin répondre à votre prière? Dieu pourrait-il ce matin combler vos besoins les plus intimes? Dieu pourrait-il, chers amis? J'espère que vous allez sortir de ce lieu avec la conviction que Dieu peut tout parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. J'espère que ce sera la façon de... Ce sera, en tout cas, quand vous sortirez d'ici ce matin de ce lieu, que vous aurez la conviction que Dieu peut toutes choses dans votre vie. Y compris vous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce ce matin, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, de nous rappeler que les Israélites, Seigneur, font partie de la même race que nous. Et que, Seigneur, les pièges dans lesquels ils sont tombés, Seigneur, ce sont aussi nos pièges, ce sont aussi les pièges qui nous guettent. Seigneur, c'est vrai que nous sommes des enfants oublieux, que nous sommes des enfants rebelles, que nous sommes des enfants, Seigneur, qui veulent que notre volonté soit faite et pas nécessairement toujours la tienne. Et Seigneur, ce matin, nous voulons que tu parles à nos cœurs afin que ce Dieu, Seigneur, qui est tout-puissant, qui tient l'univers dans ses mains, eh bien, que ce Dieu, nous puissions réaliser, Seigneur, que rien ne lui est impossible. Seigneur, bénis ta parole, que ton Saint-Esprit parle à nos cœurs. Seigneur, ce matin, tu connais les besoins de toutes les personnes ici présentes. Et Seigneur, je te prie de les visiter d'une manière toute particulière, afin, Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse nourrir non seulement leur cœur, mais aussi, Seigneur, réponde à certains besoins. Et c'est en Jésus-Christ que je te prie. Et le peuple de Dieu dit...
Amen.
Amen. Amen. L'attitude de leur cœur se résumait dans ces deux mots, « Dieu pourrait-il? » Et en disant ça, ils remettent en question sa puissance, sa présence et toutes les promesses qu'il leur avait faites. « Dieu pourrait-il? » Ça cache énormément de choses. Ils remettent en question la présence de Dieu, la puissance de Dieu et toutes les promesses qu'il avait faites. Et on va voir, ils avaient complètement oublié, et eux étaient un petit peu comme ça aussi, hein, complètement oublié tous les prodiges que Dieu avait faits pour eux. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Et frères et sœurs, on est de la même race que les Israélites. Dieu n'a pas fendu un petit ruisseau en deux, il a fendu une mer en deux. Et on oubliait que c'était un miracle. On oubliait que seul Dieu pouvait faire la même chose. Frères et sœurs, c'est vrai qu'on est des enfants oublieux. Et je réalise ce matin que nous ressemblons un peu beaucoup à Israël. Nous nous posons souvent la même question, Dieu pourrait-il? Dieu pourrait-il m'envoyer la femme que j'aime, celle-là? Mais ce n'est pas nécessairement celle-là. Dieu pourrais-tu répondre à ma prière? Chaque chose en son temps, dit le Seigneur. Et j'aimerais vous montrer à partir des Écritures que Dieu peut. Le Dieu que nous servons est toujours le Seigneur de gloire, il est toujours le roi des rois, il est encore capable d'accomplir tout ce qu'il a toujours fait dans le passé, parce qu'il est encore le même aujourd'hui et hier, parce qu'il est là, toujours le même aujourd'hui qu'il était hier, et parce qu'il ne change pas. Il est possible que vous soyez rentré dans cette salle ce matin en vous posant cette même question, Dieu pourrait-il? Et j'aimerais vous montrer ce matin que Dieu peut accomplir pour vous aujourd'hui ce qu'il a déjà accompli pour d'autres dans le passé. Premièrement, les versets 20 à 22 et 41. Les Israélites n'avaient pas la foi. Les Israélites n'avaient pas la foi. C'est ce que le texte nous dit. C'est pas le pasteur qui le dit, hein. Voici des gens qui affirmaient faire partie du peuple de Dieu,
qui aurait dû lui faire confiance, et ce, sans aucune réserve. Et pourtant, qui semblait inconscient de la puissance de Dieu qui se trouvait au milieu d'eux, frères et sœurs. Combien de gens aujourd'hui affirmant être membres du peuple de Dieu, réagissent comme eux. Au lieu de leur faire confiance, au lieu de faire confiance à Dieu et de vivre par la foi, ils s'inquiètent et se tracassent. Ils ne devraient pas en être ainsi. Et j'aimerais ce matin vous rappeler que nous avons un Dieu en qui nous pouvons avoir confiance, et ce, sans aucune réserve et sans aucune crainte. Ne soyons pas comme Thomas, à qui le Seigneur Jésus lui a dit, « Ne sois pas incrédule, Thomas, mais crois. » Et si c'est votre cas ce matin, si vous avez un problème avec votre foi ce matin, faites comme ce père dont le fils était possédé d'un mauvais esprit, qui le jetait dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Il dit à Jésus, « Mais si tu peux, encore une fois, si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus, qu'est-ce qu'il va lui dire? « Si je peux, tout est possible à celui qui croit. » Ça prend les deux, hein? Souvent, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? « Va, ce n'est pas moi qui t'ai guéri, ta foi t'a guéri. » Ta foi en moi t'a guéri. Ça prend les deux, hein? Ça prend les deux. Et c'est si je peux, mais tout est possible à celui qui croit. Et le texte biblique nous dit, aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et frères et sœurs, l'Église d'aujourd'hui, c'est peut-être une prière que l'Église d'aujourd'hui devrait faire. « Viens, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, je veux croire. Je veux croire, Seigneur, à un Dieu qui est encore plus grand que celui que je peux m'imaginer maintenant. Seigneur, je veux croire encore que ce Dieu qui a fait des prodiges dans l'Ancien Testament est encore capable de faire des prodiges dans ma vie. » C'était la prière des croyants dans le livre des Actes. « Ô Dieu, toi qui as créé le ciel et la terre, ô Dieu, toi qui as créé le ciel et la terre, accomplis des prodiges, des miracles au milieu de ton peuple. » Et plusieurs, dans différents chapitres, Dieu accomplissait des miracles et des prodiges à travers les apôtres. C'est une prière qu'on peut encore faire aujourd'hui. Parce que le plus grand miracle que Dieu peut faire, hein, c'est d'amener un pécheur à la repentance, c'est de faire passer de la mort à la vie, c'est de l'amener à la nouvelle naissance, de faire de lui une nouvelle personne. Ça, c'est le plus grand miracle que Dieu peut faire aujourd'hui. Il peut donner la vue aux aveugles, il peut rallonger des bras, il peut rallonger des jambes, mais si les gens sont perdus pour l'éternité, ça a servi à quoi? De se faire rallonger des jambes, d'avoir la vue. On a besoin que Dieu nous donne la vue, nous redonne une vue qui est comme celle qu'avaient les chrétiens qui nous ont précédés. Voir Dieu tel qu'il est. Encore un Dieu qui nous aime, mais un Dieu qui va accomplir des miracles. Un Dieu qui, c'est vrai que c'est un Dieu qui est amour, mais c'est un Dieu aussi qui est trois fois saint. Si Dieu aime le pécheur, il déteste le péché. Dieu ne veut pas la perte du pécheur. Il veut le salut du pécheur. Et là, maintenant, c'est de notre côté à faire notre part. On a besoin de reconnaître qu'on est pécheur. Ça, c'est le plus difficile, hein? Reconnaître qu'on est pécheur, demander pardon au Seigneur pour nos péchés, s'en remettre à Jésus-Christ pour recevoir le pardon de nos péchés. Et la nouvelle naissance, la conversion, c'est quoi? Ben, c'est simplement dire, je prends la décision de changer de vie. Ma lecture de la vie était celle du monde, maintenant ma lecture de la vie, c'est celle du royaume de Dieu. C'est ça la conversion. Je ne peux plus vivre comme avant, c'est impossible. Hein? Parce qu'il y a un miracle en même temps, conversion. En Actes chapitre 3, verset 19, hein? « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Il faut que les deux soient là. « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Ça prend les deux. Je peux me convertir, mais si je ne me suis pas repenti, je n'ai pas reçu le pardon de mes péchés. La conversion, c'est de rentrer à l'Église à chaque dimanche, être une bonne personne, mais toujours porter mes péchés sur mes épaules parce que je ne me suis jamais repenti, c'est-à-dire jamais reconnu comme étant un pécheur. Et on voit à travers les Israélites, on voit à travers le psaume 78, combien les Israélites ne reconnaissaient, mais comme ils étaient égoïstes, comme ils étaient orgueilleux, incapables de reconnaître, d'avoir complètement oublié, finalement, les prodiges que Dieu leur avait faits. Pourquoi? Parce qu'ils étaient centrés sur eux. Ils étaient oublieux. Versets 7 à 16, on ne les lira pas, on vous lira à la maison, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le psaume 78, il y a 72 versets. On n'a pas le temps de faire ça ce matin. Mais vous les lirez à la maison. Ils étaient oubliés. On voit les versets 7 à 16. On voit dans les versets 20 à 29 et dans les versets 42 à 55. Les Israélites semblaient être incapables de se rappeler
tous les grands miracles que Dieu avait accomplis en leur nom. Ils avaient oublié qu'il les avait libérés des Égyptiens à travers les fléaux. Ils avaient oublié comment ils avaient séparé la mer Rouge. Ils avaient oublié comment ils avaient purifié les eaux de Marat. Ils avaient oublié comment ils avaient mis leur ennemi en fuite. Ils avaient oublié comment il leur avait prouvé qu'il était Dieu et combien il était tout-puissant. Combien il était tout-puissant. Est-ce que cela ne nous décrit-il pas encore une fois, frères et sœurs? Combien de fois Dieu est-il venu à votre secours? Combien de fois Dieu est-il venu à mon secours? Combien de fois a-t-il déplacé les montagnes et séparé les eaux dans votre vie? Combien de fois a-t-il levé le voile de l'affliction et celui de la souffrance dans votre vie, permettant ainsi que sa lumière illumine votre journée? Combien de fois Dieu a-t-il calmé la tempête pour que vous viviez paisiblement? Combien de fois a-t-il rencontré vos besoins, fait l'impossible et prouvé lui-même qu'il voulait être votre seul Dieu? Et combien de fois avons-nous oublié aujourd'hui tout ce qu'il a fait pour nous hier lorsque nous avons commencé cette journée ce matin? Chers amis, nous avons besoin de jeter un regard en arrière ce matin pour nous rappeler toutes les choses, toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour nous. Si Dieu a ainsi agi dans le passé, nous pouvons être certains qu'il fera la même chose pour nous aujourd'hui ainsi que demain. Et nous avons besoin de faire l'inventaire de nos vies afin de nous rappeler la puissance avant que la prochaine tempête vienne souffler dans nos vies. Frères et sœurs, non seulement ils étaient oublieux, mais ils manquaient de foi. Regardez, en disant « Dieu pourrait-il », mais ça veut tout dire. Hein? Quand on y pense, ça veut tout dire, quoi. Parce que si on lit le minimum, si on lit un peu la parole, elle est claire, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Alors, c'est même pas une question à poser, « Dieu pourrait-il ». C'est même pas une question à poser quand vous réalisez ça, c'est même pas une question à poser. Dieu pourrait-il étaler une table dans le désert pour qu'on puisse manger? Ils ont oublié que pendant 40 ans, Dieu les a nourris. Pendant 40 ans, leurs souliers ne se sont pas abîmés. Dieu pourrait-il? C'est plus compliqué pour Dieu d'étaler une table dans le désert que de faire tomber des cailles pendant 40 ans? De faire tomber la manne pendant 40 ans? Dieu pourrait-il? C'est pas une question qu'un croyant peut demander à Dieu. Dieu pourrait-il me libérer d'un tel ou tel péché? Dieu pourrait te libérer, mais il y a besoin de ton accord, mon frère. Il y a besoin de ton accord, ma sœur. Je l'ai toujours dit, hein, c'est plus dur pour Dieu, c'est plus facile pour Dieu de créer le ciel et la terre que de convertir une personne. Pour convertir une personne, il y a besoin du consentement de la personne. Ce n'est pas nous qui nous sauvons, mais on a besoin de dire oui à l'appel que Dieu nous donne, à l'appel que Dieu nous offre. Il manquait de foi. Il démontrait ainsi jusqu'à quel point ils ignoraient sa puissance et qu'ils ne le connaissaient pas. Nous voyons cette même scène se répéter à plusieurs reprises, non seulement pendant qu'ils traversaient le désert, mais même après qu'ils aient entré dans le pays de Canaan. On n'a qu'à penser aux 12 espions qui furent envoyés dans le pays de Canaan. Lorsqu'ils sont arrivés dans le pays de Canaan, eh bien, le texte biblique, dans Nombre, chapitre 13, le texte biblique nous dit qu'ils ont rencontré une race connue comme étant des géants, les Anakim, et les 10 espions sur 12 qui virent les géants, fixèrent leur regard, ça c'est le texte, je vais vous lire le texte biblique, fixèrent les regards sur les géants et ils se virent à leurs yeux comme des sauterelles. C'est quoi leur problème? C'est qu'au lieu de garder leurs yeux fixés sur Dieu, qui pouvait les libérer de ces géants, ils ont fixé leurs yeux sur les géants. Ils se sont sentis comme des sauterelles. Et souvent, frères et sœurs, hein, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. On arrive dans la vie, il y a une montagne qui se dresse devant nous. Et plutôt que de regarder à celui qui pourrait renverser la montagne, nous débarrasser de la montagne sur le chemin, on garde les yeux fixés sur la montagne. Et tant et aussi longtemps qu'on garde les yeux fixés sur la montagne, et non pas sur celui qui peut nous délivrer, mais la montagne qui était placée au milieu de nous, eh bien, on est découragé. Qui peut déplacer les montagnes? Le Seigneur, il dit que si vous aviez la foi gros comme un grain de moutarde, on pourrait le faire. Mais Dieu, c'est à travers le Seigneur qu'on peut déplacer les montagnes. C'est à travers le Seigneur qu'on peut être libéré de ce qui nous embarrasse, de ce qui nous empêche d'être ce à quoi le Seigneur nous appelle. Cette même folie qui les animait est dans l'Église aujourd'hui. Nous sommes coupables de la même comparaison, frères et sœurs. Certains problèmes surviendront dans nos vies dans l'Église, ou peu importe l'endroit, et la première chose que nous risquons de dire, Dieu pourrait-il? Nous pourrions utiliser un autre mot, mais ça revient au même. Nos doutes nous poussent à dire « Dieu pourrait-il » alors qu'il a déjà démontré à plusieurs reprises dans le passé qu'il pouvait. C'était la condition des Israélites et j'ai bien peur que nous reflétons, en entendant toutes sortes de propos aujourd'hui, que nous reflétons ce genre d'attitude. Il est bon de se rappeler que nous pouvons toujours faire confiance au Seigneur et qu'il est toujours aussi puissant aujourd'hui qu'il l'était dans le passé. Et une façon de savoir cela, c'est en ayant une meilleure compréhension du caractère de Dieu. J'aimerais m'arrêter pendant quelques instants sur le caractère de Dieu. Les promesses, les versets 5 à 7. Les versets 5 à 7 au chapitre dans le psaume 78. Israël avait vu Dieu respecter sa parole à de nombreuses reprises. Il a toujours fait ce qu'il avait promis de faire pour eux. Dieu n'a pas changé. Il est toujours celui qui respecte sa parole. Tout ce qu'il promet, il le fera. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui le soulignent. Abraham, le texte biblique nous dit dans Romains chapitre 4, verset 21, qu'Abraham ne douta pas de la promesse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était convaincu que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Il est impossible que Dieu mente, nous dit un texte biblique aussi, Hébreux chapitre 6, verset 18. Et ce Dieu qui ne ment pas nous a promis la vie éternelle avant le commencement des temps, frères et sœurs. Pas extraordinaire, ça. C'est pas le pasteur qui vous le dit. Tite chapitre 1, verset 2. Et ce Dieu qui ne ment pas. Et on a un autre texte dans les Écritures qui nous dit Dieu n'est pas comme les hommes pour mentir. Et ce Dieu qui ne ment pas. Nous a promis, et ce qu'il promet, il l'accomplit. Il nous a promis de nous donner la vie éternelle avant même le commencement des temps. Est-ce que c'est un beau amen, là, tu as à dire? Oh, c'est pas pire ce côté-ci? Ah, okay, on recommence, hein? Un beau amen là-dessus? On va continuer. Balaam prononça ces paroles, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. » Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Frères et sœurs, versets 4 à 12, ils avaient manqué de foi, ils étaient oublieux. Il y a le caractère de Dieu ici, ses promesses, mais aussi ses prodiges. Regardez, versets 4 et 12. À travers son vécu, Israël a pu compter sur la présence et la puissance du Créateur. À de nombreuses reprises, Dieu a manifesté sa puissance au milieu de son peuple. Imaginez voir la mer Rouge se séparer en deux. Écoutez, vous êtes là, là. On voit ça déjà avec Ben-Hur, là. Pas avec Ben-Hur, mais avec Charlton Heston, dans un vieux film des années 55, avec pas d'informatique pour truquer encore mieux, finalement, la séparation de la mer Rouge. Mais vous le voyez dans un film, et c'est incroyable ce qui est arrivé, quoi. Mais y avez-vous pensé? C'est incroyable quand vous pensez à ça. Il me semble que quelqu'un qui a été témoin de ça une fois dans sa vie ne peut plus douter de Dieu, quoi. Non? Quelqu'un qui a vécu les 10 plaies d'Égypte, il me semble qu'il ne peut plus douter de Dieu. Non? Et pourtant, frères et sœurs, les Israélites étant de la même race que nous, avaient tout oublié les prodiges que Dieu avait accomplis en Égypte. Et même à partir de l'Égypte, jusqu'au moment où ce psaume nous raconte finalement la rébellion des Israélites. Frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu, mais il arrive que des enfants de Dieu soient des enfants très ingrats envers le Père qui cherche à les éduquer. Il arrive aussi, parce qu'on a une nature humaine qui est là pour nous pousser à vivre, à manifester de l'ingratitude, non seulement envers Dieu, mais envers les frères et sœurs qui nous ont aidés dans le passé, envers les frères et sœurs qui nous aident encore aujourd'hui. On est des gens qui sont oublieux. Oublieux des promesses de Dieu, oublieux des prodiges de Dieu. Imaginez voir la manne descendre du ciel jour après jour pendant 40 ans. Imaginez voir Dieu vaincre vos ennemis. Imaginez l'excitation ressentie de voir la nuée couvrir la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplir le tabernacle. Et la gloire de l'Éternel, c'est synonyme ici, Dieu descend lui-même dans la tente. Imaginez Dieu qui allait devant eux le jour dans une colonne de fumée pour les guider dans leur chemin. et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Imaginez la grandeur de la colonne, frères et sœurs. Imaginez comment elle pouvait éblouir la nuit. Et pourtant, ils avaient oublié tous les prodiges que Dieu avait accomplis. Frères et sœurs, là où vous êtes ce matin, est-il possible que vous puissiez avoir oublié certains prodiges que Dieu a accomplis dans votre vie? Et que ce matin, dans votre cœur, vous en êtes rendu à dire, Dieu pourrait-il encore me ramener vers lui? Dieu pourrait-il avoir encore pitié de moi? Dieu pourrait-il augmenter la mesure de ma foi? Parce que je ne sais même pas où j'en suis rendu. Dieu pourrait-il? Parce que si je pose la question, Dieu pourrait-il? C'est que je doute même de Dieu. Je doute même des capacités de Dieu à me ramener à lui. Je doute même des capacités de Dieu à augmenter la mesure de ma foi. Je doute même des capacités de Dieu à me rappeler les prodiges qu'il a accomplis dans ma vie, des miracles qu'il a accomplis dans ma vie. Et le plus grand miracle, c'est celui de m'avoir fait passer de la mort à la vie, étant un enfant de colère, d'avoir fait de moi un enfant de lumière. Plutôt que de me châtier, il m'a gracié. Et il a châtié celui qui est l'auteur de la grâce. La loi nous a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité nous ont été données par Jésus-Christ. Est venu par Jésus-Christ. Frères et sœurs, si Dieu, si vous avez cette question dans votre cœur ce matin, Dieu pourrait-il? J'espère que le Saint-Esprit va vous convaincre que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à celui qui se repent. Rien n'est impossible à Dieu. Pour celui, Dieu ne refuse personne qui vient vers lui avec un cœur repentant. Dieu s'est manifesté à son peuple à de nombreuses reprises dans le passé. Il n'a pas changé. Il se manifeste encore aujourd'hui à travers son peuple. Faites un retour en arrière et pensez au temps. Le Seigneur a manifesté sa grande puissance dans votre vie. N'a-t-il pas séparé les eaux du mal et du bien pour vous? N'a-t-il pas couvert les cieux et laissé tomber la manne de sa gloire sous votre vie, frères et sœurs, à plusieurs reprises? Combien de fois n'a-t-il pas agi en réponse à vos prières faites par la foi? Prodiges, les prodiges de Dieu, le caractère de Dieu, ses promesses, ses prodiges, sa puissance, verset 4. Tout au long de l'histoire de son peuple, Dieu a démontré qu'il était plus puissant que tous les obstacles qu'ils ont eu à surmonter. Il fut plus puissant que les Égyptiens et que les Amalécites. Il s'est révélé être plus grand que leur faim et leur soif. Il a été capable de surmonter et de vaincre par sa grande puissance tout ce qu'ils ont eu à affronter. Et c'est encore la même chose pour vous aujourd'hui. Vous dites « Amen » à ça. Aïe, 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 aïe. Vous dites « Amen » au moins. Un « Amen » convaincu et convaincant. Un « Amen » convaincu pour que je l'entende qu'il soit convaincant. Voilà. Vous dites « Amen » à ça ce matin. Amen. Ah! Parce que je n'étais même pas convaincu que le Seigneur avait entendu votre « Amen » la première fois. Chers amis, Dieu est aussi puissant et toujours puissant aujourd'hui. Et nous ne verrons jamais Dieu brandir un drapeau blanc parce qu'il est à bout de souffle ou qu'il est à court de moyens pour affronter une situation quelconque. Il est tout puissant et il le demeurera pour l'éternité. Sa toute-puissance, elle est éternelle. Hey! C'est bon, ça, non? Nous, on vieillit, la puissance de l'homme, en tout cas, hein, on carbure moins qu'avant. Hein, quand plus on monte, surtout dans la soixantaine, hein, le cerveau, il tourne moins vite et il y a le reste qui tourne moins vite aussi. Hein. Oui. C'est vrai, non? Ah oui. Walter, déjà, avec ce qui est arrivé, ça tourne moins vite, Walter. Hein? Voilà, voilà. Oui, hein? Oui. Ça prend pas grand-chose, hein? On arrive à un petit accident et puis ça se répare moins vite que quand on avait 20 ans, et ainsi de suite, quoi. Hein? C'est un sujet de prière, notre frère Walter. Hein? Il est tombé d'une échelle et il y a des problèmes de ligaments et il doit suivre des traitements, quoi. Dieu est toujours aussi puissant. Je veux juste vous rappeler ce matin que Dieu possède tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et que rien ne lui est impossible. Il peut tout et rien ne s'oppose à ses pensées. Y a-t-il quelque chose que Dieu soit incapable de réaliser? Ça, moi, ça me fait du bien. Là, je l'ai lu en français courant. Hein? Mais dans Genèse chapitre 18, frères et sœurs, Là, on va tomber au niveau humain, puis on va voir un demi-dieu miraculeux. Il va voir Abraham. Et là, il dit que sa femme va avoir un enfant. Vous savez quel âge qu'elle avait, hein? Je pense pas que même la médecine, la science aujourd'hui, avec toutes les prouesses qu'elle est capable de faire, qu'une personne de 90 ans est capable d'accoucher d'un enfant, hein? Ouais. Elle dit même à Abraham, tu sais, chérie, le temps du plaisir est passé, hein? Ouais. Alors, on sait ce que ça veut dire, hein? Ouais. Ouais. Et là, Abraham, il dit à mon âge, ouais. Parce que c'est vrai qu'ils ont marché par la foi, hein? Mais ils ont dû faire le geste, hein? Ce n'est pas le Saint-Esprit là, qui a conçu l'enfant. Hein. Ils ont dû faire le geste. Hein. Ça, c'est marché par la foi. Hein. La vieille Sarah avec le vieux Abraham. Hein. On oublie ça. Hein. On pense que le bébé est venu comme ça. Hein. Et ça prenait les ingrédients pour faire le bébé. Hein. Et ça prenait la puissance de Dieu pour faire en sorte que ce qui avait été déposé dans le ventre de Sarah puisse donner vie à l'enfant de la promesse. On oublie ça hein, souvent. Hein. Et Abraham, et Sarah qui riait. Hein? Et Dieu a dit à Abraham, y a-t-il quelque chose que Dieu soit incapable de réaliser? Chers amis, peu importe ce que vous vivez dans votre vie ce matin, y a-t-il quelque chose que Dieu soit incapable de réaliser dans votre vie? Vous n'avez pas encore 90 ans. Jusqu'à preuve du contraire, toutes les parties de votre corps fonctionnent. Y a-t-il quelque chose que Dieu soit incapable de réaliser dans votre vie? Y a-t-il quelque chose que Dieu soit incapable de réaliser? C'est le Dieu des miracles. Rien n'est impossible à Dieu. Ouais. Frères et sœurs, je suis en train de vous parler de celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Frères et sœurs, on se contente des miettes. Ce n'est pas Jean Cudon qui est en train de lire, qui est en train d'écrire une phrase. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Je suis en train de vous parler de celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, pas en dehors de nous, en nous. Infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Frères et sœurs, on est tellement gênés de demander des choses à Dieu qu'on le limite dans ses actions pour nous. Parce que la Bible nous dit qu'il veut nous donner au-delà, infiniment, au-delà de ce que nous lui demandons ou même pensons. Pourquoi on ne reçoit pas? C'est simple. Parce qu'on ne demande pas. Le Seigneur Jésus, c'est une parole du Seigneur Jésus. Demandez et vous recevrez. Et il dit, croyez que vous avez reçu par la foi et cela vous sera donné. Le problème, là, c'est qu'il manque ça, ce petit mot-là. F-O-I-I. F-O-I. F-O-I. C'est ce petit mot-là qui manque, hein? Et dans les Écritures, on nous dit, le juste vivra par la... Le juste vivra par... Ah, voilà! Ouais. C'est un beau verset, ça, hein? Dieu peut faire au-delà de tout ce que vous demandez et de tout ce que vous pensez. Au-delà. Caractère de Dieu, sa patience, verset 38. Alors que Dieu continuait à manifester sa puissance au nom de son peuple, Israël montrait continuellement un manque de foi envers le Seigneur. Pourtant, il est écrit que plus d'une fois, et ça c'est le verset 38, il retient souvent sa colère contre eux et qu'il ne se livre pas à toute sa fureur. Frères et sœurs, on est mieux de rester rivés sur l'amour de Dieu, en tout cas dans l'obéissance, hein, parce que s'il fallait que Dieu se déchaîne par rapport à ce qui se passe dans le monde, ça serait le déluge, hein? Ça serait une fine averse par rapport à ce que Dieu pourrait se déchaîner s'il partait en colère. Hein? Et quand on regarde ce qui se passe sur la terre, hein, Dieu doit se retenir, mais d'une manière incroyable. Hein? Ouais. Et je pense que même le Fils qui est à la droite de Dieu doit nous dire, Père, ce n'est pas encore le temps, Père, Père. Dieu, Jésus doit intercéder non seulement pour nous, mais le Seigneur doit retenir sa colère, frères et sœurs. Vous pensez que, à l'époque de Sodome et Gomorre, c'était pire que ce que nous vivons? Continuons 50 prochaines années comme on vient de vivre les 50 dernières. Vos filles ne seront pas capables de quitter la porte et vont souvent se faire violer, frères et sœurs. dans un pays scandinave. 14 ans maintenant, une fille peut coucher avec son père, il n'y a plus d'inceste. 14 ans. Hein? 14 ans maintenant. Imaginez maintenant, on est en train de descendre l'âge des adultes parce que les vieux ont encore un petit peu de connaissance pour voter. Maintenant, on descend l'âge pour permettre aux jeunes de voter. Et c'est rendu à 16 ans. En Belgique, on parle de 16 ans. Il y a d'autres pays, on est en train de commencer à parler à 14 ans, quoi. Mais à 14 ans, si t'es adulte, ça veut dire qu'au niveau sexuel, il n'y a plus grand péché qui vient de se rattacher à ça. À 14 ans, hein? Ouais. Ouais. Donc, à 14 ans, dans un pays scandinave, l'inceste, ça n'existe plus, quoi. Ouais. Frères et sœurs, on n'a même plus la notion de ce qu'est le péché dans le monde. Et je dois le dire à ma grande honte, dans certaines églises non plus. Dieu exerce une patience avec son peuple et il continue dans son amour et dans sa grâce à les accompagner tout au long de leur traversée dans le désert. Et frères et sœurs, vous pouvez être assurés que c'est la même chose pour vous. Dieu continue dans son amour et dans sa grâce à vous accompagner tout au long de votre traversée dans le désert. C'est une traversée du désert qu'on fait, frères et sœurs. Il n'y a rien de facile dans le monde. Il n'y a rien de facile pour le chrétien. Il n'y a rien de facile. C'est l'apôtre Paul qui dit qu'il faut passer par beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Par beaucoup de tribulations. Donc, si vous arrivez des tribulations parce que vous menez une vie qui est telle comme Jésus le demande, il n'y a rien de particulier qui se passe dans votre vie. C'est une promesse de la parole. C'est une promesse. C'est plutôt si vous vivez dans le péché puis qu'il ne vous arrive rien que là, vous devriez vous remettre en question. Oui. Oui. Ouais. Là, c'est un problème. Moi, en tout cas, à chaque fois que je me suis éloigné du Seigneur, il y a des fois, j'ai reçu des tapes, puis il y a des fois, j'ai reçu des coups de pied, puis il y a des fois, j'ai reçu des coups de poing. Dieu, là, moi, je sais que je suis né de nouveau. J'ai une certitude dans mon cœur parce que le Saint-Esprit qui habite en moi me le confirme. Mais quand je m'éloigne un petit peu, faites-vous-en pas que le Seigneur, il me ramasse assez rapidement, quoi. Parce que je suis son enfant, puis il ne veut pas permettre à son enfant de déshonorer le nom de celui qui l'a sauvé. Ouais. Et si ce n'est pas le cas, si vous baignez dans le péché, si ce n'est pas votre cas ce matin, remettez-vous en question. Regardez ce qui ne va pas dans votre vie. Regardez ce qui ne va pas dans votre vie. Il y a quelque chose qui n'est pas normal par rapport à la parole. Ce n'est pas moi qui est en train de vous donner des paroles d'accusation, de condamnation. Je vous dis ce que les Écritures disent. Hein. Ce que Dieu aime bien, il va châtier. Il va châtier parce qu'il vous aime. Et si vous laissez aller, remettez-vous en question, frères et sœurs. Dieu, merci, nous servions un Dieu patient. Combien de fois il a démontré sa patience envers vous et moi? Combien de fois nous est-il arrivé de quitter son chemin et de marcher selon nos propres voies? Et au lieu de nous rejeter, il a continué à nous aimer et il a agir dans nos vies pour nous amener à ressembler davantage à Jésus-Christ. Nous avons un Dieu patient dont le cœur est rempli d'amour pour nous. Et même moi, je peux dire que si je n'ai pas tellement eu une bonne relation, entre guillemets, avec mon père, mais je peux dire une chose, c'est que mon père, il m'aimait et quand je désobéissais, il me châtiait. Ouais. Peut-être pas de la manière que moi j'aurais aimé, hein? Mais il n'y avait pas de compte à me rendre, hein? C'est lui qui châtiait, c'est lui qui était mon père. Mais mon père, s'il ne m'avait pas aimé, il m'aurait dit, tu prends la porte, tu t'en vas, je ne veux rien savoir de toi. Moi, je dis que j'ai lancé la serviette. Mon père, je rends gloire à Dieu d'avoir eu deux parents qui étaient bornés, entêtés, qui ont dit, toi, mon ami, tu es une tête... Vous dites, c'est une tête de cochon, quelqu'un qui a une tête de cochon? Oui, OK, bon. Surtout Hervé, il connaît ça, entre ses bouchers. Mais quand au Québec, on dit que quelqu'un a une tête de cochon, ça veut tout dire, quoi. Et mon père me disait, tu vas t'apercevoir que je suis encore plus têtu que toi. Tu n'auras jamais les derniers mois avec moi. Et je rends gloire à Dieu de m'avoir donné ce genre de parents-là. Parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, eh bien, c'est une grande partie aussi. C'est vrai que c'est la main de Dieu, mais aussi la main de mon père qui m'a aidé à rester finalement fidèle, à rester finalement un honnête citoyen parce que j'aurais sûrement très mal tourné. On disait que j'étais prédestiné à la délinquance. Donc, je rends gloire à Dieu de m'avoir mis les personnes sur mon chemin qui ont fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est la même chose pour nous. Ce n'est pas parce qu'on pêche, ce n'est pas parce qu'il arrive ci et ça, que Dieu va carrément nous rejeter du revers de la main. Mais si on lui appartient, c'est clair et net que Dieu va nous... comme mon père, Dieu va nous ramasser. On ne sait pas comment, mais Dieu va nous ramasser. Alors, vous pouvez vous dire, je ne vous dirai pas que Dieu est plus têtu que nous, mais la patience de Dieu, et Dieu est solide, et il n'y a rien à son épreuve. Il nous aime, et il veut nous garder auprès de lui et il va prendre tous les moyens pour y arriver si on lui appartient. Amen. Et là, je termine. En fait, le défi pour aujourd'hui, donc trois points rapidement, versets 6 et 8. Le défi pour nous aujourd'hui, Lorsqu'on jette un regard sur l'histoire d'Israël et la façon dont Dieu s'est lui-même manifesté à son peuple, lorsque nous considérons la façon dont il s'est manifesté à nos propres vies, lorsque nous regardons la puissance et la capacité qu'il possède, que faisons-nous avec tout ce qu'il a mis à notre disposition, frères et sœurs? Ces versets nous disent dans des termes très clairs ce que le Seigneur attend de nous concernant ces vérités. Permettez-moi de partager trois défis auxquels nous sommes confrontés ce matin. Premièrement, apprendre à faire confiance à Dieu. Apprendre à faire confiance à Dieu. Apprendre à faire confiance à Dieu. Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de confiance vis-à-vis de Dieu? Intéressant, ça, d'évaluer ça. Pas simplement en fonction de ce que vous pensez, mais en fonction de ce que vous vivez et la façon que vous réagissez par rapport à ce que vous vivez. Quel est votre niveau de conscience par rapport à Dieu sur une échelle de 1 à 10? C'est intéressant, ça. Jésus a pris la parole et a dit à ses disciples, « Ayez foi en Dieu, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous qui êtes là, faites-lui toujours confiance. Confiez-lui ce qui vous préoccupe. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge, dit le psalmiste dans le psaume 62:8. Ces versets nous enseignent que nous devons lui faire confiance pour tous nos besoins et pour toute situation à laquelle nous sommes confrontés. Lorsque le monde, frères et sœurs, se tord les mains de désespoir, dans le désespoir et dans le doute, et demande « Dieu pourrait-il? » Nous qui croyons dans la parole de Dieu, nous devons nous tenir debout et crier « Oui, Dieu pourrait, car rien n'est impossible à Dieu. » Lorsque le monde regarde les valeurs morales s'effondrer, la violence prend des proportions gigantesques, la crise économique qui s'éternise d'une manière incroyable, l'Église le mal se répand sur la terre et qu'il demande « Dieu pourrait-il? » Oui, rien n'est impossible à Dieu. Nous devons être prêts à répondre « Oui, Dieu pourrait. » Oui, Dieu pourrait. Cela a été, frères et sœurs, tout au long de l'histoire de l'humanité et c'est encore la même chose aujourd'hui. Dieu peut. Amen. Dieu peut. Rappelez-vous Daniel dans la fosse aux lions. Le roi Darius a passé la nuit à se poser la question « Est-ce que Dieu pourrait le sauver? » Daniel est demeuré toute la nuit dans la paix en se reposant sur Dieu, sachant très bien que Dieu pourrait le délivrer. Parce que rien n'était impossible à son Dieu. Pensez à Shadrach, Meshach et Abednego, le roi Nebuchadnezzar, affichant un sourire sur son visage. Il avait fait jeter les trois Hébreux dans la fournaise ardente en se demandant si leur Dieu pourrait les sauver de la fournaise ardente. Ces trois garçons sont sortis de la fournaise ardente en criant haut et fort, « Oui, Dieu pouvait nous sauver, et il l'a fait. » Et il l'a fait. Frères et sœurs, je ne me prends pas pour un autre, je ne vous dis pas ce que j'aurais fait, mais si on faisait partie, si on avait été choisi et qu'on avait fait partie d'un des trois Hébreux, quand vous pensez que simplement en ouvrant les portes, les soldats qui ont ouvert les portes sont morts brûlés, qui aurait dit, « Moi, je vais y aller parce que je sais. » Que Dieu peut me sauver si c'est sa volonté. Ouais. On est capable de dire ça, vous savez comment? Quand on mène la vie que Shadrach, Meshach et Abednego avaient menée. On est capable de lever la main quand on vit ce que Daniel vivait. Daniel priait trois fois son Dieu par jour. Trois fois il priait son Dieu par jour. Daniel ne faisait aucun compromis avec le péché. Et il était capable de dire, moi je lève la main parce que si la volonté de Dieu, si c'est ce que Dieu veut, eh bien, je brûle, je m'en vais au ciel. Encore la meilleure place qui m'est accordée. Et si Dieu veut m'en libérer, il va m'en libérer. Mais je sais que Dieu peut par Dieu, car Dieu, il n'y a rien n'est impossible à Dieu. Mais combien il y en aurait parmi nous qui lèveraient la main et disent, je vais prendre la place de Shadrach, moi, matin. Shadrach, tu as la vie sauve peut-être 5 ans. Allez, j'y vais, moi. Daniel, va te reposer, je vais prendre ta place dans la fosse aux lions. Vous avez une couple de semaines, il n'a pas mangé, hein? Ouais. Ils n'ont pas touché à Daniel, hein? Parce que le Seigneur a envoyé son ange le protéger. Ouais. Mais par contre, quand ils ont sorti Daniel puis ils ont mis les autres, ils se sont fait dévorer tout rond, hein? Ouais. L'ange de l'Éternel a quitté la place, hein? Il n'était pas sur la protection de Dieu. Ouais. C'est vrai que Dieu nous aime. Mais si on veut bénéficier de sa protection, on doit marcher comme Dieu nous demande de marcher. Dieu, ce n'est pas un tarlet. Dieu, ce n'est pas un imbécile. On dit ça, un tarlet, sinon. Dieu, ce n'est pas un imbécile. Hein. On ne se moque pas de Dieu. Hein. On récolte ce qu'on sème. Pensez à la veuve de Sarepta. Elle regardait le prophète Élie manger le peu de nourriture qui lui restait en se demandant, Dieu pourrait-il pourvoir? 3 ans plus tard, elle était toujours en train de manger alors qu'autour d'elle, des gens mouraient de faim. Et quand elle a eu fini son repas, elle ne finissait pas de murmurer avec certitude dans son cœur, « Oui, Dieu pouvait! » Extraordinaire, non? Je me souviens ce jour, après avoir entendu l'Évangile, j'étais convaincu de péché, perdu sans Dieu. Tout ce que je sais, c'est que dans mon cœur, cette question refaisait surface. Est-ce que Dieu pourrait sauver quelqu'un comme moi? Mais quand je me suis incliné aux pieds de Jésus et que j'ai eu placé ma foi en lui pour être sauvé, j'ai compris que Dieu peut sauver quiconque le veut bien. Amen! Quiconque le veut bien. Et si ce n'est pas votre cas ce matin, vous n'avez pas l'assurance de votre salut, Dieu peut vous sauver ce matin. Parce que le cœur de Dieu, c'est que tous parviennent au salut, que tous parviennent à la repentance. Il s'agit là où vous êtes ce matin de dire, « Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que je suis perdu dans mes péchés et qu'il y a un jugement qui m'attend quand je vais mourir. Et Seigneur, je te rends grâce d'avoir ce jugement qui m'attend, je te rends grâce de l'avoir posé sur les épaules de Jésus-Christ. Il a pris sur lui mes péchés et j'ai en retour, tu m'as donné sa justice. Seigneur, je reconnais que c'est par grâce, je ne méritais rien parce que si tu m'avais traité comme je le mérite, Seigneur, c'est l'enfer que je méritais. Et je te rends grâce que Jésus a accepté de vivre l'enfer à ma place. Pour que je puisse voir les portes du paradis m'ouvrir, être ouvert un jour. Et ça, ce n'est pas une question de religion. Hein? Il n'y a aucune religion en dehors du véritable christianisme qui peut vous garantir parmi les 10 000 religions qui existent sur la terre, que lorsque vous allez mourir, vous pouvez avoir la certitude d'aller au ciel. Uniquement, ce n'est pas dans une religion, c'est à travers une personne, la personne de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Est-ce que vous croyez dans la résurrection des morts? Ah, je vais le dire autrement. Jésus-Christ est ressuscité.
Il est ressuscité.
Amen. Amen. Voilà. Simplement faire cette prière à votre place. Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Seigneur, parce que je connais, je suis un pécheur, que je suis perdu sans toi. Seigneur, qu'il n'y a aucune bonne œuvre qui peut effacer un seul de mes péchés. Mais que c'est à travers la repentance et la conversion que je peux voir mes péchés être effacés. Merci, Jésus, d'avoir pris sur toi mes péchés. Merci, Seigneur, en retour de m'accorder ton amour, de m'accorder ta bénédiction, de faire de moi ton enfant. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux non seulement t'accepter comme mon sauveur, mais aussi comme mon Seigneur. Seigneur, je veux que tu deviennes le maître de ma vie. Seigneur, je sais que tu peux me transformer, Seigneur, à travers les miracles de la nouvelle naissance, Seigneur. Fais en sorte que je puisse passer de la mort à la vie maintenant, là où je suis, assis à ma place, Seigneur, afin que je puisse te louer, afin que je puisse t'adorer. Afin que je puisse être capable de dire non dorénavant au péché qui cherche qu'à me détruire. Merci pour ton amour, Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Pas long, hein? C'est pas long de passer des ténèbres à la lumière, hein? Et oui, frères et sœurs. Deuxièmement, se rappeler des œuvres qu'il a accomplies dans le passé pour vous. Rappelez-vous toutes les fois que vous avez été délivrés. Rappelez-vous lorsqu'il vous a sauvé, le nombre de fois qu'il a déplacé les montagnes pour que vous puissiez continuer à avancer. Rappelez-vous sa puissance et ce qu'il a fait pour vous dans le passé vous rappelle qu'il peut encore intervenir. Et ce, peu importe ce que vous vivez, que le passé soit un moyen pour vous de vous rappeler qui est Dieu, de vous amener à lui faire confiance. Et ce, peu importe la situation que vous vivez présentement. Un homme prit l'avion pour la première fois dans sa vie, sachant qu'il avait une certaine appréhension concernant ce premier vol. Ses amis étaient impatients de recueillir ses impressions de son arrivée. Dès que l'occasion se présenta, ils lui demandèrent s'il avait apprécié le voyage. « Eh bien, dit-il, ce n'était pas aussi affreux que je l'avais cru, mais je peux vous dire que lorsque j'ai compris que je ne pouvais rien faire d'autre que de faire confiance à celui qui conduisait l'avion, j'étais en paix. » Voilà comment certains chrétiens s'emparent des promesses qui se trouvent dans la Bible. Ils n'ont aucun mal à croire tout ce qui est écrit concernant le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont convaincus qu'il est capable de sauver quiconque place sa confiance en lui. Ils savent que le péché a été pardonné, que le ciel sera leur habitation pour l'éternité. Mais ils ne parviennent pas à prendre le Seigneur au mot quand cela s'applique à d'autres domaines de leur vie. Par conséquent, ils sont en proie à des doutes, à des craintes, à des inquiétudes. Ils sont inquiets de ce que le lendemain leur est réservé, sans avoir cette paix qui surpasse tout ce que l'homme peut comprendre. Combien vous rencontrez des frères et sœurs qui sont torturés de ce qui va leur arriver demain. Torturés de ce qui va leur arriver la semaine prochaine. Alors que Jésus nous a dit, à chaque jour suffit sa peine. Je vais vous montrer jusqu'à quel point il est idiot de s'inquiéter de ce qui va arriver demain dans la semaine prochaine. Quand vous allez vous coucher le soir même, vous ne savez même pas si vous allez vous réveiller le lendemain matin. Vous ne savez même pas si vous allez être vivant le lendemain matin. Je comprends très bien la parole de Jésus qui dit, arrête de t'inquiéter de demain. Arrête! De toute façon, Dieu ne te donnera pas la grâce aujourd'hui que tu as besoin pour demain. Dieu donne la grâce aujourd'hui pour ce qu'on va traverser aujourd'hui. Demain, la grâce, c'est une autre portion de grâce qu'on va recevoir. Mais Dieu ne nous donne pas des grâces d'avance. Hein? Non. La grâce qu'on a besoin aujourd'hui pour vivre, on va la recevoir. La grâce qu'on a besoin demain pour vivre, Dieu va nous la donner. Mais à chaque jour suffit sa peine. Dernier défi pour nous, obéir à ses commandements. La foi authentique dans le Seigneur se manifeste toujours dans l'obéissance. Rappelez-vous, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque nous plongeons nos regards dans sa parole et que nous permettons à sa parole de se loger dans nos cœurs, nos vies sont transformées et nous apprenons à lui faire de plus en plus confiance. La foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire la foi, elle naît de ce que... On dit « entend » ici, pourquoi? Parce que l'Écriture n'était pas écrite, le Nouveau Testament n'était pas écrit à ce moment-là. Mais la foi vient de ce qu'on lit, de ce qu'on médite. Elle prend racine. La foi, elle prend racine uniquement dans la parole de Dieu, en entendant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà. En terminant, il y a 2 ans, je me trouvais à l'aéroport de Charleroi. Donc, pour Boris et Nadia qui sont ici, est-ce que Marianne est là aussi? Oui, voilà. Alors, je ne parlerai pas du voyage qu'on a fait cette semaine, mais je vais parler du voyage que j'ai fait il y a 2 ans. Je me trouvais à l'aéroport de Charleroi pour prendre l'avion qui me conduirait à Manchester en Angleterre. Et pendant que je me dirigeais vers l'avion, j'étais soumis à la loi de la gravité. Quand je suis arrivé face aux marches de l'escalier qui mène à la porte d'entrée de l'avion, j'ai dû utiliser ma force pour que mon corps puisse monter chacune des marches de l'escalier. Et en entrant dans l'avion, je me suis assis dans un siège confortable attendant calmement que l'avion décolle. Et quand tout fut prêt, l'avion a quitté le pont d'embarquement pour rouler jusqu'à la piste et emprunter le couloir qui lui était réservé pour s'envoler dans les airs. Les moteurs ont augmenté de vitesse pour atteindre 230 km/h et l'avion a quitté la piste pour s'envoler vers Manchester. La force de gravité que j'avais utilisée pour monter dans l'avion cherchait toujours à tirer l'avion de 150 tonnes vers la terre. Mais il y avait une loi qui agissait maintenant contre la loi de gravité. C'était une nouvelle loi, la loi de l'aérodynamique. Je ne connaissais rien de la loi de l'aérodynamique et je n'avais pas besoin de connaître cette loi parce que je me trouvais dans l'avion complètement détendu et je me suis élevé avec l'avion. La victoire de l'avion sur la loi de la gravité était aussi ma victoire. Écoutez, je vais en arriver au domaine spirituel. Saisissez bien ça. La victoire de l'avion sur la loi de la gravité était aussi de ma victoire. L'avion s'est décollé, l'avion est monté, je suis décollé, je suis monté avec l'avion. La vitesse à laquelle l'avion avait décollé était également ma vitesse. Tout ce qu'il était possible à cet avion d'accomplir, écoutez bien ce que je suis en train de dire là, était devenu également possible pour moi. Pourquoi? Parce que je me trouvais à l'intérieur de l'avion. Je ne conduisais pas. Je n'avais pas besoin de connaître tout ce qui était le tableau de bord. Mais le simple fait que je me trouvais à l'intérieur de l'avion, je bénéficiais de tout ce que l'avion vivait. Il en est de même, frères et sœurs, avec la loi de l'esprit de vie qui se trouve en Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de comprendre la théologie pour en tirer profit. Tout ce dont j'ai besoin de faire, c'est de m'engager spirituellement avec Jésus-Christ, comme je l'ai fait physiquement avec l'avion. Remarquez que ce n'est pas la qualité de ma foi qui m'a conduit à Manchester en 1h10, mais celui qui était aux commandes de l'avion, frères et sœurs. Je me souviens qu'à l'intérieur de l'avion, il y a 2 ans, il y avait une dame qui était effrayée parce qu'elle a passé tout le vol dans la crainte à se ronger les ongles, à regarder par les hublots si les moteurs n'étaient pas en feu ou s'ils ne prendraient pas feu. C'est pas évident de traverser un vol comme ça, hein? Elle avait peur de ne pas arriver à destination. Pourtant, frères et sœurs, elle est arrivée en même temps que moi. Au même endroit que moi. Je suis aussi fort que celui dans lequel je mets ma foi. Si ma foi demeure en Christ, alors je suis aussi fort qu'il peut l'être. Est-ce que vous réalisez là, ce que je suis en train de dire? Je prends un banal exemple d'avion. Je suis faible quand je me retire de Jésus-Christ, quand j'enlève ma confiance en Jésus pour la placer en moi-même, eh bien, tout peut m'arriver. Et je suis convaincu que si j'étais rentré dans l'avion, j'aurais dit au pilote, « Repose-toi un peu, je vais faire la traversée. » Il m'aurait dit, « Ça va pas, quoi. Hein? Ça va pas. » Mais avec le Seigneur, c'est la même chose. Hein? Si on enlève les commandes de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, on ne sait pas où cela peut nous conduire, frères et sœurs. On ne sait pas où cela peut nous conduire. Ça peut être un désastre spirituel. Combien de gens ont promis de ne jamais commettre tel péché grave et qui sont tombés dedans? Parce qu'au lieu de s'appuyer sur le Seigneur Jésus pour vaincre le péché, ils se sont appuyés sur leur propre force et ils sont tombés, découragés, déprimés. Remarquez que je n'ai pas eu besoin également d'aider l'avion à voler jusqu'à Manchester. Personne ne m'a demandé de faire quoi que ce soit pour que l'avion aille plus vite. La puissance se trouvait dans l'avion. Demain, le Seigneur Jésus peut triompher dans ma vie sans que je l'aide. La puissance qui est la mienne se trouve en lui. La principale différence entre moi et cette pauvre femme apeurée, c'est que moi, j'ai apprécié le vol, mais elle, pas du tout. Mais écoutez bien, là, maintenant, spirituellement. La différence entre moi et certains chrétiens, hein, moi, j'apprécie ma vie chrétienne, même si je vis des moments très difficiles, même si j'ai vécu des moments très difficiles. Et qu'il y a d'autres chrétiens, là, qui sont incapables de traverser des petites choses. Hein? Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai placé ma confiance. Moi, j'ai compris que c'était terminé de placer sa confiance en Jésus-Christ parce que je me cassais la figure à chaque fois. Pas en Jésus-Christ, mais en Jacques Hudon. Merci. Ah, ça va, vous êtes réveillés. C'est bon. J'ai compris qu'à placer ma confiance en Jacques Hudon, ça ne menait nulle part et c'était la catastrophe. J'ai compris qu'ils avaient placé ma confiance en Jésus-Christ. Frères et sœurs, ainsi en est-il avec nous. Il y a beaucoup de gens qui ne parviennent pas à faire confiance au Seigneur parce qu'ils ne se rappellent pas que Dieu pourrait. Par conséquent, ils vivent une vie de défaite accompagnée de désillusion et de découragement. Chers amis, il ne doit pas en être ainsi. Je veux vous inviter à venir au Seigneur ce matin et découvrir par vous-même que Dieu pourrait. Apportez vos doutes, apportez vos craintes et vos questions et déposez-les aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il peut tout, il est Dieu, et parce qu'il est Dieu, rien ne lui est impossible. Amen. Amen. Amen.